France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, c'est à peine remis de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. D'ailleurs, ils y retournent juste après l'émission pour finir leur verrine sur la plage du Majestic et parler du film de ce soir qu'ils n'ont pas vu mais qu'ils ont trouvé très fort, qu'ils sont venus et on les remercie. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Éric Métou, bonsoir, de l'Express, également Malik Lounès, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du Conseil National du Parti Socialiste, Audrey Goutard, bonsoir.
Bonsoir.
De la rédaction de France Télévisions et également Mathieu Alterman du
bonsoir.
Point Pop, bonsoir. Et ce soir, on parlera des États-Unis hors de l'accord nucléaire iranien. Est-ce que c'est un échec européen? Réforme constitutionnelle? Si, vous allez voir, c'est intéressant. On parlera également d'un référendum à la SNCF, c'est possible. Mais juste avant, nous recevons François Braun. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes président de SAMU Urgence de France. Et avec vous, nous allons revenir sur cette histoire qui, franchement, je pense, n'importe qui, en écoutant le récit et en écoutant surtout l'enregistrement, on peut dire qu'il dépasse l'horreur totalement, pour laquelle la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a demandé donc l'ouverture d'une enquête administrative. Naomi Musonga, c'est une mère de famille de 22 ans qui est morte après avoir été raillée par deux opératrices des secours de l'hôpital universitaire de Strasbourg. Les faits remontent au 29 décembre dernier, mais la polémique enfle depuis qu'elle a été rendue publique le 27 avril, notamment en entendant l'enregistrement de l'appel de la jeune femme. Alors, François Braun, c'est une question qui peut paraître toute simple, mais on se dit, mais comment c'est possible
cette histoire ? C'est malheureusement une question qu'on se pose aussi. Cet appel est effarant. Il est terrible. Il ne répond en rien aux principes de fonctionnement du SAMU ou aux protocoles qui peuvent être mis en place pour répondre à ce type d'appel. Donc, nous sommes très en attente des résultats également de cette enquête, non seulement administrative, mais aussi l'enquête demandée par la ministre de la Santé.
Alors, ce qui frappe quand même aussi, François Braun, c'est que ce soir, l'opératrice a été suspendue, a été envoyée, mais depuis le 29 décembre dernier, elle a seulement été changée de service. C'est là où on se dit, personne n'a pris la mesure, finalement, de ce geste.
J'ai pas d'informations précises sur la façon dont les hôpitaux de Strasbourg ont géré cette affaire. Il est vrai que c'est long, c'est très très long. Bon, apparemment, cette assistante de régulation médicale a été changée de fonctionnement, c'est-à-dire qu'elle n'était plus à la réception des appels. Maintenant, après, quels sont les résultats de l'enquête interne de l'hôpital de Strasbourg? Ça va être aussi intéressant de savoir ce qui s'est passé, parce que c'est de toute évidence un fonctionnement qui est déviant par rapport au fonctionnement des SAMU.
Qu'est-ce que vous pensez, François Braun? Beaucoup aujourd'hui pointent, notamment par exemple quelqu'un comme Patrick Peloux, il pointe les problèmes d'organisation. Lui, du SAMU, il était interrogé ce matin sur notre antenne et il a rappelé ce chiffre. En 1988, on comptait 8 millions de passages aux urgences chaque année contre 21 millions aujourd'hui sans redimensionner les centres d'appel. Ça veut dire qu'on n'a pas véritablement travaillé sur ce sujet de centre d'appel ?
Alors, on travaille sur le sujet des SAMU et des centres d'appel depuis une petite dizaine d'années, suite à un rapport qui a montré non seulement l'évolution des choses, mais aussi les besoins en informatisation et en amélioration des techniques de téléphone. Cela commence à se mettre en place, c'est travaillé par l'ASIP Santé, ça se met en place à partir de cette année. Le SAMU de Mulhouse va être le premier SAMU test et c'est prévu de se développer jusqu'en 2024, en gros les Jeux Olympiques. On considère maintenant que c'est beaucoup trop long et qu'il va falloir aller plus vite pour moderniser l'ensemble du système. Il faut le moderniser avec les outils actuels. Plusieurs SAMU travaillent déjà avec des outils de visioconférence, avec des outils d'intelligence artificielle qu'il va falloir mettre en place, en plus, bien entendu, de la réponse humaine qui reste essentiel.
Audrey Goutard, sur cette affaire.
Alors, effectivement, on peut dire qu'on peut remettre en question les dysfonctionnements, etc. Mais avant tout, c'est une femme qui écoute une autre femme ou un être humain, quoi. Mmh. Donc, ce qui est étonnant, c'est de savoir... Enfin, vous me détromperez si je me trompe. C'est que, en fait, effectivement, ces personnels sont formés pendant un an. Un an pour recevoir les appels de gens qui ne savent pas expliquer ce qu'ils ont. Parce que finalement, ce qu'on reproche, ce que ces dames reprochent à la patiente, c'est de ne pas arriver à formuler son mal.
Son mal, oui,
c'est ça. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est un problème humain qu'on retrouve dans les hôpitaux, auprès d'un infirmières qui ne savent pas tenir compte d'une vieille personne ou du malade. C'est la prise en charge de la maladie et de l'incapacité de l'humain à exprimer son mal. Et
François Braun, est-ce qu'on est là ou est-ce qu'on est aussi, comme certains disent, une surpression aussi du personnel ?
Il y a plusieurs niveaux de réponse. Cette analyse dont vous parlez, qui est une analyse clinique, elle doit être faite par le médecin régulateur. C'est son travail. Les opérateurs, que ce soit chez les sapeurs-pompiers ou au niveau du SAMU, comme on peut l'entendre là, ne posent qu'une ou deux questions simplement pour évaluer la gravité immédiate. Par exemple, est-ce que c'est un arrêt cardiaque?
Ils sont formés pour ça.
Voilà, ils sont formés
pendant
pour
un
ça.
An.
Mais ils ne sont pas formés pour poser plus de questions. Et il ne faut pas qu'ils posent plus de questions. Ils doivent passer l'appel au médecin régulateur, qui est un médecin urgentiste, qui travaille au SAMU, qui travaille aussi au service des urgences, qui travaille dans les équipes du SAMU, et qui lui-même va affiner un petit peu ce diagnostic. Maintenant, la formation des personnels est probablement insuffisante. Et nous le disons depuis plusieurs années. Alors, ça a été repris par un rapport sénatorial il y a un peu moins d'un an et demi, qui insistait pour qu'il y ait une formation plus professionnalisante et qui durerait 2 ans.
Moi, ce que je crois, c'est qu'on est d'ores et déjà dans une affaire hors norme, pas tant par, en fait, parce qu'elle est multidimensionnelle. Il va falloir qu'on revienne sur des aspects qui sont systémiques. Mmh. On est dans cette période de Noël, on connaît ses pointes, donc ça pose question sur l'organisation globale du SAMU. Il y a manifestement un problème de management.
Ouais.
Donc dans les process propres à Strasbourg, de est-ce qui a mis cette bonne personne à la bonne place, machin, etc. Il y a peut-être une question de racisme.
Ça s'entend pas au téléphone.
Non, au téléphone.
Si. Moi, j'entends l'accent africain, j'ai écouté la bande.
Ouais.
Et il y a le nom. Naomi donne son nom. Mm. Okay, je dis pas que c'est le cas, attention.
Ouais.
Je dis qu'il y a un aspect multidimensionnel à cette affaire qui fait qu'elle va rentrer dans les annales judiciaires et qu'il va falloir décrypter tout ça. Il y a aussi ce qui s'est passé avant et après. Parce que nous, ça part du SAMU, mais avant, il y a eu les pompiers. Que s'est-il passé? Après, est-ce normal? Est-ce qu'il y a eu un débriefing au niveau de Strasbourg? Manifestement, non. Comment on a traité? Est-ce que si la famille n'avait pas fait pression pour avoir l'enregistrement, est-ce que tout cela serait sorti? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tout de suite dans un truc qui va nous occuper et qui pose de multiples questions dont il va bien falloir s'occuper.
Mathieu Alterman.
Moi, j'ai envie d'élargir le problème, parce que là, on parle du SAMU, il y a quelqu'un qui est mort, c'est épouvantable, mais le souci aujourd'hui, c'est que n'importe quelle permanence téléphonique de n'importe quel système, que ce soit vous appelez la poste, vous appelez EDF, vous appelez votre service internet, tout ça, vous avez des sueurs froides avant, tellement vous savez que ça va mal se passer. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun contrôle sur est-ce que les gens sont bons ou pas dans ces services de permanence téléphonique. Et ils ne sont jamais bons. Ce n'est pas propre au SAMU. Là, on parle de vous parce qu'effectivement, c'est horrible.
Parce qu'il y a... Oui, voilà.
Voilà. Mais c'est jamais bien, quels que soient les services.
Alors, on va continuer à en parler. Dans un instant, l'info à 20h10, c'est Léo Técher.
C'est désormais à l'Europe de garantir l'ordre mondial. Déclaration d'Emmanuel Macron ce soir à la télévision allemande et au lendemain donc du retrait des États-Unis sur l'accord nucléaire avec l'Iran. L'Arabie Saoudite prévient ce soir qu'elle cherchera elle aussi à se doter de l'arme nucléaire si l'Iran reprend ses recherches. Quelle suite pour la grève des cheminots? Un référendum? La proposition de la CGT doit être étudiée en ce moment par l'intersyndicale alors que le 8e épisode de grève se termine. C'était le 16e jour de mobilisation aujourd'hui, le moins suivi depuis le début du mouvement avec 14,4% de grévistes. Un nouveau signe d'apaisement venu de la Corée du Nord. 3 Américains libérés aujourd'hui alors que Kim Jong-un et Donald Trump donneront les détails de leur prochaine rencontre dans 3 jours. Lutter contre les violences sexistes, contre les violences sexuelles et contre les écarts de salaire, le gouvernement a un plan pour une égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes, plus de formation, plus de transparence et de sanctions. 15 mesures seront débattues le mois prochain à l'Assemblée nationale. Et puis le Brésilien du PSG, Dani Alves, s'est blessé hier soir lors de la finale de la Coupe de France, remportée 2-0 contre les Herbiers. Mauvaise nouvelle, à un peu plus d'un mois du mondial, il serait indisponible pour au moins 3 semaines.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Encore une question à vous, François Braun. Vous êtes président du SAMU Urgence de France et nous parlons donc de ce drame terrible survenu à l'hôpital universitaire de Strasbourg le 29 décembre. On l'apprend seulement maintenant. C'est la mort de cette femme, Naomi Musanga, qui a appelé le SAMU. On s'est moqué d'elle, on l'a raillée et quelques heures après, elle mourait car elle n'avait pas réussi à se faire comprendre. Aujourd'hui, votre principale crainte, François Braun, c'est une méfiance par rapport au SAMU?
Oui, c'est-à-dire que c'est un cas qui est absolument dramatique et qui est insupportable. Pour autant, le SAMU, au jour d'aujourd'hui, prend en charge plus de 20 millions de personnes par an. C'est le service d'urgence, si on prend tous les numéros d'urgence, qui reçoit le plus d'appels. qui reçoit plus de la moitié de l'ensemble des appels d'urgence. Et c'est un service qui est indispensable dans notre système de soins actuel pour prendre en charge correctement les patients. La crainte, c'est qu'une défiance vis-à-vis du SAMU amène des patients à ne plus appeler quand ils en ont vraiment besoin. Mmh. On a vécu une époque où les gens arrivaient avec un infarctus du myocarde à la porte de l'hôpital. Et encore, ils s'excusaient de venir nous déranger. Maintenant, l'infarctus du myocarde est pris de façon extrêmement rapide avec des parcours de soins identifiés comme plein d'autres pathologies. Ça, c'est grâce à la régulation médicale du SAMU qui nous est enviée par la majorité des pays européens, et y compris les États-Unis, qui commencent à mettre en place des systèmes identiques.
Donc, je crois qu'il faut faire confiance. Voilà, encore au SAMU.
C'est très difficile de passer ce message ce soir avec ce drame qui s'est passé à Strasbourg. Mais oui, il faut faire confiance aux médecins du SAMU. C'est leur métier. Les assistants de régulation également, qui vont leur passer l'appel et qui doivent leur passer l'appel.
C'était votre message en tout cas ce soir, François Braun, président de SAMU Urgence de France. Merci d'être passé ce soir aux informés de France Info. Allez, nous, on va passer à une autre urgence et aller internationale, puisqu'au train où ça va, le seul accord qui restera entre les États-Unis et le reste du monde, ce sera, sur la taille des tucs, ou encore, il paraît que Donald Trump les trouve trop petits. Donc, après le climat et le traité transpacifique, Donald Trump a donc décidé hier de sortir les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015. Depuis, le monde se sent fébrile. Les alliés des États-Unis au Proche-Orient soutiennent cette initiative, alors que la Russie, la Chine, la Turquie dénoncent, et que l'Iran ne cache plus sa colère et prévient désormais que les recherches sur l'atome pourraient reprendre. Du côté des Européens, eh bien, on prend note du fiasco, puisque la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne pensaient pouvoir faire changer d'avis le président américain, mais ils sont toujours déterminés à appliquer l'accord. Et ce soir, d'ailleurs, en visite en Allemagne, Emmanuel Macron a pris la parole sur le sujet. On écoute le président de la République.
Je regrette la décision du président américain. Je pense que c'est une erreur, et c'est pourquoi nous, Européens, avons décidé, nous l'avons redit hier soir, de rester dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. Et j'ai eu tout à l'heure l'occasion de le rappeler au président Rouhani. Cet accord, nous l'avons négocié, nous l'avons signé, et il est celui qui permet le mieux de contrôler l'activité nucléaire de défense en Iran jusqu'à 2025.
Voilà, Emmanuel Macron. Alors, Éric Métou, quand on entend ça, finalement, on a l'impression que ce voyage aux États-Unis n'a pas servi à grand-chose, Emmanuel Macron. Bah,
c'était le voyage de la dernière chance. Enfin, c'est bien qu'il l'ait fait, quand même. Tout le monde se doutait, quand même, depuis quelques semaines, voire quelques mois, que c'était, il avait annoncé dans sa campagne, qu'il voulait sortir de l'accord. De toute manière, il allait le faire. C'était Normannerie qui allait la faire. Donc, il fallait le tenter. Il l'a tenté. Presque, il dit là que les autres pays vont continuer à honorer l'accord. C'est pas possible, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que à partir du moment où les États-Unis, dont on sait le pouvoir qu'ils ont sur les entreprises, on a vu les condamnations successives, que ce soit Cuba, que ce soit l'Iran, à chaque fois qu'une entreprise brisait l'embargo, il suffit que tout est fait en dollars. Donc cette espèce de jurisprudence de fait qu'il y a sur les États-Unis. Alors il faudrait se battre contre ça. Alors là, il ouvre un chantier à côté duquel la négociation d'accord nucléaire iranien est...
Expliquer que, par exemple, n'importe quoi, Airbus décide de vendre à l'Iran, ça voudrait dire qu'il serait sanctionné aussi par les Américains, notamment s'ils vendent des Airbus aux États-Unis. Voilà, c'est là.
En dollars, bien sûr. Et après, c'est des sanctions qui sont énormes. Et les entreprises, notamment européennes, elles ont déjà mis le pied sur le frein parce qu'elles savent depuis déjà aussi longtemps que nous que l'accord ne va pas tenir.
Mike Lunes.
Je suis d'accord avec Eric sur le constat, mais en même temps, il faut quand même voir la situation. Nous avons un président américain qui utilise la politique étrangère pour des questions de politique intérieure. Il veut sortir de l'accord iranien parce même que ça lui garantit d'énormes volumes de vente d'armes en Arabie Saoudite et à d'autres pays comme l'Égypte, qui font tourner des usines américaines, puisque ces armes sont fabriquées aux États-Unis avec des travailleurs qui votent pour lui. C'est ça le point de départ. Le point de départ, c'est le travailleur américain. C'est pas la situation au Proche-Orient. Il a deux alliés qui sont un peu dans la même logique. Benjamin, le premier ministre israélien, bon, on sait que lui, il a intérêt à une montée des tensions parce que ça permet d'oublier d'avoir moins de pression sur sa tête de la police et de la justice israélienne, puisqu'il est dans des enquêtes de corruption de pot de vin jusque-là. Et on a son meilleur ami, on a trois individus qui sont en train d'emmener toute une région dans une course aux armements, à la guerre, et on parle de nucléaire, et nous devrions rester sans rien faire. Ce que vient de dire le président Macron est extrêmement important. Il y a la question du leadership politique, Ça, c'est une première chose. Parce que, il y a la question de notre souveraineté.
Oui.
Bon. Peut-être que pour la première fois, effectivement, l'ordre américain va être contesté par l'Europe. Parce que pour la première fois, les États-Unis sont dirigés par un mec qui est un peu barge et qui est en train de nous emmener dans n'importe quoi. Et on ne pourra pas suivre n'importe comment, à n'importe quel prix. Mathieu, donc, il va peut-être falloir qu'on réagisse contre un forcé, mais qu'on réagisse.
Mathieu Alterman.
On va faire des petits rappels. Qu'est-ce qu'ils font, l'Iran? Hein? L'Iran, ils ont fait une guerre au Yémen, d'accord? Ils financent le Hezbollah.
Aussi, attendez.
Oui.
Non, mais.
C'est quand même eux qui financent.
Non, mais c'est eux qui financent.
C'est eux qui financent. C'est eux qui financent, on le sait tous.
Tout le monde mène des guerres d'influence, y compris les Américains.
C'est eux qui le financent. Le Hamas, ils le financent. Le Hezbollah, ils le financent. Ils ont un programme balistique qu'ils ont développé puisqu'ils n'étaient pas
pays,
donc
comme
qu'est-ce qu'on fait
comme les États-Unis,
sauf comme la France, sauf que l'Iran le met en Syrie et le pointe sur Israël. Ce n'est pas le cas de la France, vous voyez. On peut tous avoir des programmes balistiques et des trucs. Maintenant, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Voilà. Donc il y a un moment, l'Iran, en plus, l'accord n'a pas du tout bénéficié économiquement au pays.
Mais pas encore. Non, mais oui.
Oui, mais ça, bien sûr, puisque ça, toutes les entreprises ont mis le pied sur le frein pour pas y aller, parce que sachant pertinemment qu'il serait remis en cause, évidemment que ça n'a pas bénéficié au pays.
Audrey Goutard.
Oui, ça a permis, en revanche, de ralentir, si vous voulez, le souhait des Iraniens de se procurer finalement la bombe atomique. Donc ça a ralenti tout ce processus. En plus, vous avez une agence qui est l'Agence internationale à l'énergie atomique. C'est pas des rigolos. Ils ont fait des contrôles et tous les ans. Ils ont bien dit que ces contrôles, effectivement, avaient abouti à un résultat et que les Iraniens tenaient leurs engagements. Alors, on peut tout remettre en question et dire qu'ils se sont fait balader, mais apparemment.
Bah, il y a des pièces qui ont été montrées.
Non.
Ça s'appelle de la fake news, ça s'appelle de la manipulation.
En tout cas, ça n'a pas convaincu
Trump
les experts.
Sur la manipulation.
Ça n'a pas convaincu
les experts. C'est fake news parce qu'elle date d'avant. Attendez, ce sont des pièces qui sont antérieures à l'accord.
S'il vous plaît.
Non.
S'il vous plaît.
Oui, mais
attendez, on va faire
ça. Elles sont antérieures.
Écoutez,
exactement de la manipulation.
Eric, mais tout, s'il vous plaît. Sinon,
personne
n'entend pas Mathieu Alterman.
Que la date n'était pas antérieure. La date est effectivement antérieure.
Mathieu Netanyahou n'a pas d'ici.
C'est dans les papiers, on voit bien que c'est antérieur. Sauf qu'on montre quand même qu'il y a un enrichissement à une époque où il disait qu'il ne le faisait pas. C'est à une époque où l'Iran disait qu'il ne le faisait pas.
Mathieu Alterman, s'il vous plaît, on va se quoi faire. On va juste écouter parce que sinon, on n'entend rien du tout de ce qui se passe. Donc voilà, ça va être plus simple. On va y revenir dans un instant. On va peut-être prendre une petite douche, je ne sais pas, ensemble ou pas ensemble. En tout cas, on va en parler, on va reparler dans un instant. L'info à 20h20, Léo Técher.
La suppression complète de la taxe d'habitation prévue au plus tard pour 2021. Le Premier ministre Édouard Philippe promet par ailleurs qu'aucun impôt supplémentaire ne sera créé pour compenser ce manque à gagner pour les communes, plus de 26 milliards d'euros. Les municipalités pourraient en revanche, par exemple, se voir transférer une partie d'un impôt national déjà existant. Le 8e épisode de grève des cheminots se termine ce soir et les syndicats de la SNCF ne sont toujours pas sortis de leur réunion. Quelle suite alors pour ce mouvement ? Alors que le 16e jour de grève aujourd'hui était le moins suivi depuis le début du mouvement, les conducteurs, eux, restent mobilisés pour plus de la moitié. Une nouvelle épidémie d'Ebola redoutée, 17 morts en République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé débloque 1 million de dollars pour sensibiliser les populations. Le virus avait fait 11 000 morts en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016. La deuxième nuit du Festival de Cannes commence seulement et c'est surtout la cérémonie de clôture qui a fait parler aujourd'hui sur la croisette. Le film de Terry Gilliam, Don Quichotte, sera finalement bien projeté le 19 mai prochain. La justice française met fin à un imbroglio avec son producteur portugais. Il n'y a pas eu match aujourd'hui entre Gaël Monfils et Rafael Nadal, moins d'1h15 d'échange, 6-3, 6-1. Le Masters 1000 de Madrid commence bien pour l'Espagnol numéro 1 mondial.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons du retrait des États-Unis, de l'accord sur le nucléaire iranien, mais surtout, alors maintenant, quelles conséquences économiques, puisque vous savez, les États-Unis renouent avec des sanctions dures, et faire du business avec l'Iran pour avoir des conséquences désormais, avec des rétorsions puissantes, comme l'explique l'économiste Eli Cohen.
Même si vous utilisez simplement des dollars pour une transaction, vous êtes passible d'actions contre vous sur le territoire américain. Ensuite, même si vous faites des affaires en euros, mais que vous avez des activités aux États-Unis, vous pouvez être poursuivi pour vos activités aux États-Unis. Ce qui veut dire que les banques et les entreprises énergétiques sont au cœur du dispositif de sanctions éventuelles. Et ça, c'est un vrai problème pour les Européens.
Voilà, l'économiste Eli Cohen, Audrey Goutard, est-ce que Est-ce qu'il y a on peut penser aussi à une chose, on se souvient de Donald Trump, ce qu'il avait fait pour la Corée du Nord. La Corée du Nord, il avait augmenté les sanctions au maximum. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une paix qui semble peut-être se dessiner. Est-ce que Donald Trump, véritablement en sortant de cet accord, ça veut dire qu'il ne signera pas un autre accord plus favorable ?
C'est ce qu'espère d'ailleurs Emmanuel Macron, puisqu'il laisse toutes les portes restent ouvertes. Vous l'avez noté, pour le moment, Trump montre ses gros bras, mais de façon très, très, très démonstrative. Ça ne veut pas dire que derrière, effectivement, ça ne va pas se dégonfler. Mais ouais, c'est vraiment une stratégie. C'est d'ailleurs intéressant parce qu'on a vu que Trump, lorsqu'il a fait campagne, a dit qu'il allait dénoncer certains accords. Il les dénonce systématiquement. Le pari, effectivement, du président français, c'est de se dire « Ok, il va les dénoncer », parce que je ne pense pas qu'il... Enfin, personne n'a l'air de penser qu'il était dupe lorsqu'il est allé aux États-Unis, qu'il imaginait le convaincre de changer d'avis. Mais effectivement, il pense qu'il peut y avoir une renégociation, comme en Corée.
Alors, une chose tout de même, Malik Lounès, à propos de l'Europe, Emmanuel Macron, ils sont entretenus avec le président iranien aujourd'hui, Hassan Rouhani. Ils ont convenu de poursuivre leur travail. Est-ce que c'est possible sans les États-Unis ? Vous parliez tout à l'heure de sortir, de faire ça sans les États-Unis, mais il y a tellement de choses qui nous lient aujourd'hui.
Mais j'ai bien entendu ce que dit M. Cohen, est exact, mais c'est aussi de la politique. On n'est pas dans des trucs qui sont figés, c'est aussi des rapports de force. Le problème, c'est que nous sommes pris en otage sur une question qui n'est pas mince, qui est la question du nucléaire, dans une région qui est déjà explosive. Donc voilà, ça peut être un moment fondateur. Ça suppose que la France, l'Allemagne, mais aussi l'Italie et l'Espagne arrivent à mettre en mouvement la Chine et les Russes en disant aux Américains, vous ne pouvez pas fonctionner de façon unilatérale de cette façon-là, en menaçant tout le monde, y compris nous.
Ce qui est compliqué avec l'Europe, c'est que hier, nous avions ici des spécialistes et ils expliquaient que autant la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne sont d'accord, mais l'Italie, par exemple, non. Eux, ils veulent continuer comme avant, en fait. C'est-à-dire, ils veulent continuer à négocier avec l'Iran, à faire, voilà, parce qu'ils ont beaucoup de business, ils n'ont pas signé cet accord. Donc, vous voyez, mais... c'est compliqué, en fait. Alors, c'est pour ça, déjà, entre nous.
Moi, je pense que France, Allemagne, Espagne, Italie, ça, c'est le troisième PIB mondial. Mmh. Avec la Chine, ça commence à faire beaucoup. Ça permet d'avoir un rapport de force politique avec les Américains et de rediscuter autrement. Bon. Après, sur le fond du sujet, est-ce que, comment dire, il y a un intérêt à élargir la négociation à d'autres sujets ? La Syrie, par exemple. Oui, bien sûr. Après tout, on peut dire aux Iraniens, attendez, vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, d'un côté, vouloir vous insérer dans le concert des nations, et de l'autre, mener des opérations en Syrie ou ailleurs, sans qu'on en parle. Pourquoi pas ? Ouais. Bon. Tout à l'heure a été soulevée la question de la sécurité d'Israël.
Oui.
La meilleure chose qu'on puisse souhaiter pour la sécurité d'Israël, parce que ça fait aussi partie du problème, c'est qu'en Iran émergent des classes moyennes qui aspirent à consommer, à leur bien-être, à voyager, à élever leurs enfants et non pas à détruire l'État d'Israël. Mmh. Mais pour ça, il faut faire exactement l'inverse de ce que fait Trump. Mmh. Donc voilà, si vraiment c'est ça la question, on est mal barré. Israël est mal barré. C'est
si
pas
vous
le bon
pensez
chemin.
Que la sécurité d'Israël, c'est qu'il y ait effectivement cette classe moyenne, effectivement, je suis bien d'accord, il faut juste attendre 50 ans dans ce cas-là.
Non, ça peut aller très vite.
Je vous rappelle quand même que ça fait 70 ans qu'on attend. Donc,
c'est totalement faux. Ce que vous dites est faux. L'Iran n'était pas l'ennemi d'Israël avant la révolution de Roumanie. Déjà 70 ans de temps.
S'il vous plaît,
l'Iran était directement faux. L'économique et d'intérêt national.
Non, mais si on veut se répondre, parce que vous dites des choses passionnantes.
Oui, mais
sinon on n'entend pas.
C'est pas vrai.
Attendez, c'est pas la peine d'hurler.
L'Iran n'était pas l'ennemi d'Israël avant la révolution de Roumanie.
Mathieu, aujourd'hui, l'affrontement politique en Iran, il se fait entre des classes moyennes urbaines qui veulent consommer, qui veulent voyager, qui veulent s'insérer dans la mondialisation avec des arriérés.
Juste une chose.
Et Trump, il est l'allié des arriérés.
Une chose pour terminer.
J'espère que les Européens seront les alliés des classes moyennes iraniennes.
Il vient de redonner le pouvoir au mollah en Iran. C'est exactement ce qu'il fait. Il fracture le camp occidental et il met Israël dans une position qui n'a jamais été pire que celle qu'il y a aujourd'hui. Mm. Je veux dire, il vient d'appuyer sur le bouton rouge.
Une chose, pas capable
de vous rendre compte de ça.
Tard, juste pour terminer, quand on a appris, apprend ce soir.
C'est pas parce qu'on pense pas comme vous, Mathieu, c'est dramatique. On a le droit de penser différemment.
Mathieu, s'il vous plaît. Juste une chose, quand on apprend ce soir que l'Arabie Saoudite souhaite désormais se munir de l'arme nucléaire,
mais de toute façon, maintenant, ça va être la course. Et puis en plus, l'Arabie Saoudite, c'est pas n'importe quel pays. Ils sont actuellement en train de se battre indirectement contre l'Iran au Yémen, notamment. Donc effectivement, bon, oui, ça va être une espèce de montée de surenchère, mais c'est un peu le but recherché par Trump. Et le calcul de Trump, c'est aussi de s'adresser, comme vous le disiez, ils savent très bien qu'aujourd'hui, la situation économique en Iran est catastrophique, qu'il y a effectivement une opposition ultra-conservatrice qui n'a qu'une envie, c'est de casser tout ça. Donc Trump joue là-dessus en se disant, avec un gouvernement affaibli, une crise économique, je vais arriver à obtenir ce que je veux.
Allez, de toute façon, dans un instant, nous, on va revenir en France, parce que l'Iran, voilà, on va continuer à en parler, mais dans le reste de la semaine également, puisque des évolutions devraient venir, on entend encore d'autres déclarations. On parlera d'une chose beaucoup plus apaisante qu'est la SNCF aussi. Voilà, ça nous rappelle, ça nous ramène finalement à nos petites contrariétés. On parlera également de la réforme constitutionnelle. Voilà, il y a de quoi faire encore dans les informés de France Info. On revient dans quelques minutes.
Allô?
Bonjour, j'appelle pour l'annonce occasion exceptionnelle BMW.
Ah, vous êtes intéressé?
Peut-être. Vous avez fait les 101 points de contrôle mécanique et les 53 points de contrôle esthétique, comme chez BMW?
Bah, je l'ai juste photographié.
D'accord. Et vous offrez la garantie, l'assistance kilométrage illimitée pendant 24 mois.
Oh là, c'est beaucoup ça.
Et vos conditions de financement?
Ah, c'est paiement comptant.
Bon, merci. Mais pour une occasion exceptionnelle BMW, je vais aller chez BMW.
BMW Premium Selection. Les voitures d'occasion certifiées BMW, c'est uniquement chez BMW.
Dernier volet du cycle de conférences France Inter, Bien Vivre Ensemble, animé par Ali Rebeilly et Christophe André.
Nous vous donnons rendez-vous mardi 5 juin à 20h pour apprendre à ralentir, à vraiment se déconnecter et moins stresser avant l'été.
2 heures d'échange, de débat et de séances de méditation en pleine conscience.
La conférence Ralentir, en direct dans les salles de cinéma partout en France. Découvrez la liste des cinémas partenaires sur franceinter.fr et réservez dès maintenant vos places pour vivre cette expérience collective. France Inter, une radio de Radio France.
En partenariat avec la Massif.
Massif, essentiel pour moi.
France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt, 260 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
Début de journée nuageux des Pyrénées au centre-est et au grand-est, avec quelques averses et orages résiduels qui toucheront l'Alsace et la Franche-Comté avant de s'évacuer vers l'est. De l'Aquitaine à l'est parisien et au nord-Pas-de-Calais, le ciel sera encombré avec quelques passages pluvieux à cause d'une perturbation peu active. La matinée sera plus lumineuse sur le reste du pays, avec du vent autour du golfe du Lyon et une ambiance un peu brumeuse près de la Côte d'Azur. Demain après-midi, la perturbation va s'étendre entre les Pyrénées, le Massif central, le Jura et la Lorraine. Quelques trouées arriveront à se dessiner, mais des averses resteront possibles. Les éclaircies du nord-ouest vont gagner du terrain, jusqu'aux Landes, au Limousin, à Lyon et aux Ardennes. Le soleil se montrant davantage sur le littoral de la Manche et de l'Atlantique. En revanche, quelques averses orageuses risquent à nouveau de se développer entre les Alpes, la Côte d'Azur et la montagne Corse. La baisse des températures amorcée depuis quelques jours va se poursuivre, seulement 15 degrés à Brest et à Cherbourg, 19 degrés à Paris, Strasbourg et Montauban. Il fera un peu plus doux autour de la Méditerranée avec jusqu'à 24 degrés à Montpellier.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Rivé, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. L'Arabie Saoudite menace de se lancer dans la course à l'armement nucléaire si jamais l'Iran relance son propre programme d'enrichissement atomique. Déclaration de Riyad au lendemain du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Emmanuel Macron considère que c'est désormais l'Europe qui porte la charge de garantir l'ordre mondial.
Je regrette la décision du président américain. Je pense que c'est une erreur et c'est pourquoi nous, Européens, avons décidé, nous l'avons redit hier soir, de rester dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. Et j'ai eu tout à l'heure l'occasion de le rappeler au président Rouhani. Cet accord, nous l'avons négocié, nous l'avons signé, et il est celui qui permet le mieux de contrôler l'activité nucléaire de défense en Iran jusqu'à 2025.
Emmanuel Macron ce soir, interrogé par la télévision allemande, il recevra demain à Aix-la-Chapelle le prix Charlemagne qui récompense son engagement en faveur de l'unification européenne. Signe de la tension actuelle, un drapeau américain a été brûlé ce matin par des députés iraniens au sein même de leur parlement. Mike Pompeo a rencontré Kim Jong-un pendant 1h30 ce mercredi. Le secrétaire d'État américain a envoyé en éclaireur pour préparer la rencontre entre le dirigeant nord-coréen et Donald Trump. Cette rencontre n'aura pas lieu à la frontière frontière entre les deux Corées. Le lieu sera annoncé avant la fin de semaine. Mike Pompeo, qui a obtenu la libération de 3 ressortissants américains, il rentre aux États-Unis cette nuit. Une série d'explosions à Kaboul en Afghanistan aujourd'hui. 2 commissariats de police touchés, notamment par un kamikaze. Il y a au moins 5 morts et 16 blessés. Des attentats revendiqués à la fois par les talibans et par Daesh. En France, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, présentait ce matin la réforme des institutions en Conseil des ministres. Réduction du nombre de députés, suppression de la Cour de justice de la République ou accélération des procédures de débat parlementaire. Autant de points critiqués par l'opposition de droite comme de gauche. L'évacuation ce matin de l'université Jean Jaurès de Toulouse. Les bâtiments vidés par la force. L'administration a fait un premier état des lieux avec une évaluation des dégâts de l'ordre de 400 000 euros. Un étudiant toulousain qui voulait ensuite participer à une assemblée générale interdite a été légèrement blessé accidentellement, précise la préfecture. Pendant son interpellation, un engin explosif des forces de l'ordre s'est déclenché. Selon sa famille, il souffrirait d'un pneumothorax. Il est hospitalisé. Ouverture d'une enquête préliminaire à Strasbourg. Il s'agira de définir les circonstances de la mort d'une Alsacienne de 22 ans en décembre dernier. Alors même qu'elle avait appelé le SAMU, l'opératrice téléphonique aujourd'hui mise à pied ne l'avait pas prise au sérieux. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a expliqué sur France Info que cette affaire révélait autant un non-respect des procédures qu'un certain nombre de dysfonctionnements dans le service. Vous écoutez France Info, 20h33, on retrouve Jean-Mathieu Pernin. C'est la suite des Informés.
Les Informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les Informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils plongent leur tartine d'actualité dans un grand bol de quotidien. Et ce soir, Les Informés de France Info reçoivent Éric Métou de l'Express, également Malik Lounès, membre du Conseil National du Parti Socialiste, Audrey Goutard de la rédaction de France Télévisions, et également Mathieu Alterman du Point Pop. Alors, à l'heure d'Internet, des snaps, des tweets, des Twitch, hein, des posts, il est toujours étonnant de voir nos confrères s'attacher aux expressions de grand-maman, qui ne sont pas du tout bottom-up. Ainsi, concernant l'intersyndicale qui se réunit en ce moment, 2 jours après le rendez-vous à Matignon, on a pu lire « Ah, ça sera la réponse du berger à la bergère » ou « La balle est dans le camp du gouvernement. Syndicat échaudé, craint l'eau tiède. » Bref, on allait voir ce qu'on allait voir. Hein. Désormais, les idées fusent pour maintenir une mobilisation. Ainsi, la CGT également propose d'organiser un référendum auprès des cheminots pour appuyer leurs revendications. La CFDT propose un amendement alors que Sudrail propose de durcir le mouvement. Mais revenons sur cette idée de référendum pour la CGT. Cheminots, c'est un petit peu ce qui permettra de prendre la température, même si on l'imagine un petit peu cette température. On écoute Laurent Brun.
L'idée, c'est que le gouvernement affirme qu'il ne veut pas bouger le cœur de sa réforme. Donc nous allons questionner les cheminots pour savoir si oui ou non ils sont en accord avec cette réforme. C'est aussi en parallèle avec ce qu'annonce la direction de l'entreprise, qui dit que puisque 3/4 des cheminots ne sont pas en grève, c'est que 3/4 des cheminots soutiennent la réforme. Donc nous allons poser la question aux cheminots, savoir si vraiment ils soutiennent la réforme ou pas. Comme nous le pensons, à mon avis, la réponse sera écrasante, mais on verra bien.
Voilà, Laurent Brun de la CGT, cheminot Mathieu Alterman, ce référendum. Mais alors, on pensait que c'était une réforme SNCF, pas que cheminot, justement. Le cercle sur les cheminots seulement, il n'y a pas un...
Ah mais c'est déjà fini, là, la réforme SNCF. Tout le monde sait qu'elle passera. Aujourd'hui, ça va être la réforme CGT qu'il va falloir... parce que le drame, il est là aujourd'hui. Comment la CGT va se sortir de cette histoire?
Et donc, est-ce qu'un référendum, est-ce que ça apporte quelque chose, justement, là?
Non, rien. C'est là ils occupent le terrain avec un truc, voilà. De toute façon, tout le monde sait autour de cette table que la réforme passera. Enfin, ils n'ont aucune chance. Enfin, qu'on soit pour ou contre la réforme, les jeux sont faits.
Ouais, Audrey Goutard.
Enfin, le référendum, il y a un référendum qui a très bien marché, puisque ça coûte pratiquement la place au patron d'Air France.
Ça a coûté sa place au patron d'Air France.
Mais le référendum Air France KLM, c'est 55% des salariés qui ont dit on veut pas du projet, et paf, le patron est parti.
Mais là, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on parle de cheminots, on voit aujourd'hui Air France, c'était tout le personnel d'Air France qui votait.
Effectivement.
Là, la SNCF, ce ne sont pas que
c'est
des cheminots.
Oui.
Voilà. Est-ce que ce n'est pas ça qui est un peu étonnant? Parce que là, en effet, la CGT, s'ils vont vers les cheminots, la plupart aujourd'hui sont mobilisés. Donc forcément, c'est un peu biaisé d'avance, non?
Oui, ça c'est sûr. Et puis en plus, on voit effectivement aujourd'hui, j'ai vu que 14% il y avait 14% de grévistes,
oui,
pas plus.
Oui,
sauf effectivement du côté des cheminots où effectivement la grève reste encore forte.
Forte, ouais.
Et notamment sur les conducteurs de train, etc. À 58%.
Malik Lounès.
Moi, je pense que, en fait, le gouvernement et les syndicats ont un peu la même analyse. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force équilibré et aucun n'arrive à obtenir une rupture stratégique. parce qu'en fait, les gens sont assez spectateurs de tout ça. On parle de réforme de la SNCF, mais on ne parle pas de la réforme qui intéresserait les gens, qui sont, est-ce que les trains vont arriver à l'heure, est-ce qu'il va y en avoir plus, qu'ils vont aller partout, machin, etc., etc. Donc, moi, je crois que, alors, on peut voir les choses comme Mathieu, dire le référendum est une manière pour la CGT de faire un peu de l'animation, d'occuper le terrain et tout. Ça peut être aussi rechercher à figer un rapport de force en montrant qu'en fait, il y a deux mondes et qu'il va bien falloir qu'on vive avec. Il y a le monde du gouvernement qui est, bon, le macronisme, machin, etc. Mmh. La CGT, ou les cheminots qui incarneraient l'ancien monde, hein, qui serait appelé à disparaître, mais en attendant qui est bien là. D'ailleurs, il peut arrêter le pays si vraiment il s'y met. Mmh. Et qu'il va bien falloir trouver un point d'équilibre entre les deux.
Oui, mais quand vous voyez par exemple Édouard Philippe qui dit « Moi, je bouge pas, je vous reçois, mais je bouge pas. » Donc le rapport de force, il est du côté du gouvernement, non?
Écoutez, il y a un moment, alors d'abord, il y a un moment où ça peut se politiser. Moi, je pense qu'il y a une analyse globale, parce que ça à mettre en rapport aussi avec d'autres mouvements, et il y a encore cette idée que ni le gouvernement, ni la CGT n'ont remporté une manche décisive jusqu'à présent. Bon, je pense pas que le référendum le permettra. Par contre, il peut permettre d'ouvrir une voie de sortie où personne ne perd la face.
Et pourtant, Éric Métou, la première partie de la loi est votée à l'Assemblée nationale.
Oui, là-dessus, on va être d'accord, Mathieu. Ah, non, mais les syndicats...
Beaucoup plus apaisés que pour les
CGT. Ils ont déjà perdu. Ils n'arrivent pas, je dirais, effectivement, à chaque nouvelle salve, il y a moins de grévistes. Ça mobilise personne. Il n'y a personne dans les rues. Les manifestations sont misérables. Au point qu'on trouve que la manifestation de la France Insoumise avec 40 000 personnes, c'est un énorme succès. Enfin, c'est dire. Donc, on sent bien quand une grève prend. Quand un mouvement prend, et là il prend pas, et la grève, la loi est déjà passée, ça va s'essouffler. Sudrail cherche une autre méthode, donc alors, eux ils voudraient durcir le mouvement. Là, ils sont pas d'accord entre eux. Enfin, c'est pas possible que, effectivement, tout le monde sait autour de cette table, mais pas seulement, que la réforme est déjà passée. Et effectivement, c'est grave, je pense, pour la CGT, parce qu'à un moment il va falloir qu'ils payent ça.
Mais Audrey Goutard, est-ce que c'est aussi aujourd'hui un problème pour les syndicats de choix de communication, c'est-à-dire une grève perlée comme ça plutôt qu'une grève dure comme veut Sudrail par exemple aujourd'hui, c'est-à-dire on arrête tous le travail
Alors on mène des opérations choc dans les gares, etc.
Est-ce qu'il y a c'était un piège finalement dans lequel ils se sont mis dans
un piège, d'autant plus qu'on voit que les dernières études montrent que les Français se sont organisés, trois quarts des utilisateurs et du RER, ce qui peut être étonnant parce que c'est vrai que c'est une telle contrainte que ne pas avoir de RER. Les utilisateurs de tous les réseaux ferrés considèrent que finalement, bon an, mal an, ils se sont organisés. Donc même s'ils soutiennent finalement l'action des cheminots, ils s'organisent, finalement c'est rentré dans le train-train quotidien, et voilà,
c'est aussi pour ça que le gouvernement ne peut pas remporter la manche, parce que le pari c'était que les gens s'énerveraient contre les cheminots et mettraient la pression.
Donc la balance
il faut souligner que
les gens s'en foutent.
Sauf ceux qui prennent le RER le matin, qui, même s'ils s'organisent, ne s'en foutent pas, j'imagine.
Non, mais les gens,
Mathieu,
les gens ne soutiennent pas la grève. On n'est pas en 95. Hein. Il y avait ce grand fantasme de recréer la grande grève de 95. Pas du tout. On interroge les sondages montrent que pas du tout. Les gens ne soutiennent pas du tout en majorité.
Ils
ne
sont pas hostiles non plus.
C'est un entre-deux. Ouais,
voilà. Enfin, ça n'a rien à voir avec les chiffres de 95. Quoi.
Donc, ça peut habiller une sortie. Le référendum peut habiller une sortie. Après, il faut une volonté politique de sortie.
Oui, mais le problème, c'est qu'on voit très bien, les cheminots sont majoritaires, donc ils vont dire, on est contre, et donc maintenant.
Ça permet au gouvernement de dire, bon, on ne va pas aller à l'affrontement de Montal, on entend un peu le message, on lâche trois cerises sur la gauche, et puis remballer, c'est pesé.
Je sais pas, c'est pas du tout Édouard Philippe, ça. Hein. Je vous le dis. Hein. Voilà, je me permets de vous le dire.
Le référendum n'a pas encore eu lieu.
Oui, non, mais voilà. Non, mais d'accord. Allez, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h40, c'est Léo Técher.
Une opératrice du SAMU suspendue après la publication de l'enregistrement d'un appel téléphonique. Oui, vous allez mourir, comme tout le monde, avait-elle dit à une jeune femme décédée quelques heures plus tard. Une enquête est ouverte par le parquet de Strasbourg pour non-assistance à personne en péril. Emmanuel Macron regrette la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord nucléaire avec l'Iran. « Je pense que c'est une erreur », dit-il ce soir à la télévision publique allemande. Le président français et son homologue iranien veulent préserver cet accord. Nouveau transfert controversé d'ambassade en Israël. Lundi, ce sera les États-Unis qui déménageront de Tel Aviv à Jérusalem. Mais aujourd'hui, c'est le Paraguay qui annonce emboîtait le pas à Donald Trump. En décembre dernier, le président américain déclarait reconnaître la ville sainte comme étant capitale d'Israël. Un plan pour une égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes, plus de formation, plus de transparence, plus de sanctions contre les violences et les écarts de salaire, des mesures présentées par le gouvernement ce soir, un mois avant qu'elles ne soient débattues à l'Assemblée nationale. La finale de la Ligue Europa, c'est déjà dans une semaine. Les supporters marseillais préparent donc leur déplacement à Lyon, théâtre de ce match contre l'Atlético Madrid. Ils ne passeront pas par le centre-ville de Lyon, explique le responsable de la sécurité marseillais, qui assure que les esprits sont apaisés alors que la rivalité sur les réseaux sociaux avec les Lyonnais est plus forte que jamais.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, faut-il ou non un référendum à la SNCF pour sortir de la crise? Éric Métou, depuis le référendum chez Air France, on sent que la consultation peut être une nouvelle arme pour les syndicats, alors qu'avant, ils étaient contre.
La situation est absolument pas comparable, d'abord parce que le référendum à Air France, c'est la direction qui l'a organisé, qu'effectivement, ça concernait l'ensemble des salariés, et puis surtout qu'il y avait un doute. C'est-à-dire que quand le directeur d'Air France a lancé le référendum, il pensait qu'il allait gagner.
Voilà, c'est ça.
Il a perdu. Là, si le référendum, c'est un référendum pour rien. On sait très bien qu'effectivement, lancer un référendum auprès de cheminots remontés comme ils sont remontés en ce moment. Et puis, c'est vrai que objectivement, le statut touche pas aux cheminots en place, mais
à ceux qui vont venir, aux embauchés.
Voilà, ça fera une situation moins bonne pour ceux qui viendront après. Donc oui, là pour le coup, le référendum, il est perdu d'avance par la direction et gagné d'avance par les syndicats. Donc c'est pas comparable. Après, c'est une recette qui marche.
Voilà.
Et les recettes qui marchent, on les applique généralement, on les reprend.
Alors, on vient de l'apprendre, en effet, qu'il va y avoir une consultation les 14 et 21 mai auprès des cheminots. Hein, c'est la CGT cheminots qui l'a annoncé ce soir. Donc voilà, Mathieu Alterman s'est lancé même deux tours, vous voyez.
Oui, c'est bien, ça les occupe, ils vont faire des petits tracts, des machins, mais enfin, bon, je veux pas qu'on puisse penser que je suis pas du tout méprisant envers ces gens-là. Mais pour moi, il y a un vrai souci, que va faire la CGT? Les prochaines élections syndicales, ça va être une catastrophe. Enfin, parce que là, on a quand même monté une grève pour ce que vous soulignez tout à l'heure, c'est les prochains employés qui n'auront pas le statut de cheminot. Enfin, c'est un truc, mais les Français, ils peuvent pas adhérer à un truc pareil.
Est-ce qu'on voit aussi des syndicats aujourd'hui on le voit bien, qui sont à la recherche d'un second souffle? C'est-à-dire qu'il y a eu le monde politique aujourd'hui qui recherche un second souffle et on voit les syndicats. Et on a vu, par exemple, un homme comme Pavano, élu à Force Ouvrière, on voit qu'il est beaucoup plus radical que Jean-Claude Mailly. On le voit dans son comportement. Ça veut dire que vous pensez que, par exemple, les prochains leaders syndicaux, de la CGT, de CFDT peut-être, pourquoi pas, vont être un peu plus durs?
Écoutez, comment dire, vu ce qu'annonce Macron, oui, il faut s'attendre à ce que les tensions montent. On a clairement un affrontement entre des gens quand même qui sont dans une logique de relative protection et de maintien d'un certain nombre de droits, avec un gouvernement qui veut bousculer un peu tout ça, qui veut réduire un certain nombre de protections collectives et individuelles. Mmh. Et c'est clair que ça va créer des tensions. Le problème des syndicats, c'est qu'il n'y a pas de force politique alternative au macronisme aujourd'hui. Pour pouvoir à un moment dépasser la question syndicale, parce que là par exemple sur les cheminots, c'est quoi le problème? C'est l'isolement. On a eu l'histoire de la convergence des luttes, mais c'est un mot d'ordre qui est creux. Aujourd'hui dans l'état du pays, les gens considèrent qu'ils ont voté à la présidentielle l'an dernier, qu'il y a un président qui est en place qui décline son programme et qu'il faut lui laisser un peu de temps pour le mettre en place, et ils sont encore là-dedans. Voilà.
Ouais, c'est ça Audrey Goutard.
Oui, moi je m'interrogeais pourquoi un référendum en deux tours?
Oui,
c'est pas du tout.
Plus ça va aller.
Pour l'instant, les dernières élections le montrent effectivement. Après, est-ce que le syndicat devient la force d'opposition lorsqu'on est contre l'action gouvernementale plus que le parti d'opposition? C'est vrai qu'on peut s'interroger, mais
Surtout qu'il y a plein de travailleurs qui ont peut-être envie d'être représentés par des syndicats peut-être un peu plus modernes, qui représentent un peu plus que, je crois, la CGT, c'est 2,5% quoi,
Pose le problème des gens qui ne vont pas voter, des employés qui ne vont pas voter aussi.
Quoi, enfin, faire quelque chose qui représente vraiment les gens, parce que là, 2,5%, quoi.
Donc, s'ils ne vont pas voter, c'est que les syndicats, aujourd'hui, dans la posture qu'ils ont adoptée, ne remplissent pas leur rôle. Ils ne les satisfont pas. Et c'est parce que c'est 2,5% pour la CGT, mais c'est 7% pour l'ensemble des syndicats. C'est ridicule et c'est dramatique. Alors effectivement, je pense qu'il va y avoir une radicalisation, peut-être pas à la CFDT, oui. mais en tout cas chez AFO et à la CGT. Et c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose du tout que les autorités et les syndicats n'arrivent pas. Enfin, l'entreprise qu'il n'y ait pas de dialogue social en France. Après, c'est aussi la victoire de Macron. Cette radicalisation, parce que Macron, il veut le rapport de force, parce qu'il sait qu'à chaque fois, il va gagner. Et là, il vient de le prouver. Il va faire passer la réforme des retraites de cette façon-là. Exactement, de la même manière.
On sent que c'est plus délicat, quand même, hein, la réforme des retraites. Hein.
A priori, on sent pas non plus un frémissement de l'opinion qui serait, on va tous descendre dans la rue pour défendre nos retraites.
Très rapidement, si vous pouvez le fermer, parce que je voudrais qu'on passe au sujet. Très rapidement, si vous voulez.
Non, mais il y a eu une alerte. Les retraites ont failli mettre le feu à la plaine. C'est le truc qui a failli faire déborder le mouvement de la SNCF sur autre chose, parce que les retraités se sont fait l'écho d'une grosse colère dans le pays sur les questions d'optimisation fiscale, de cadeaux de filles aux riches, etc., alors qu'eux se faisaient ratiboiser avec la CSG. Le gouvernement a joué les pompiers, c'est Édouard Philippe, a reculé là-dessus. Donc, après, les retraités, à mon avis, sont un peu têtus. Et quand on va commencer à toucher au système, ils vont se remanifester, plus les futurs retraités.
La réforme des retraites.
Ce qui risque de faire beaucoup de monde.
La réforme des retraites, ça ne concerne pas les retraités, ça concerne ceux qui vont être à la retraite demain.
Fais gaffe, il y a le niveau des pensions et des calculs. Il y a toujours l'histoire de durée et tout. Il y a retraités et futurs retraités qui sont toujours concernés.
Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en parler. Mais ça va être incroyable de cette réforme des retraites. Allez, quand on se plonge dans les méandres de la réforme constitutionnelle et qu'on la comprend, eh ben, on est sûr ensuite de pouvoir envoyer un satellite sur Saturne. Hein. C'est assez incroyable. On y parle de congrès, de loi organique, de loi ordinaire. Vous êtes encore là ? C'est bon, faites un signe, sinon voilà. Promise par Emmanuel Macron, ces différents changements constitutionnels commencent à prendre forme avec aujourd'hui la présentation en Conseil des ministres, ainsi la suppression de la Cour de justice de la République, la fin de la désignation de droit des ex-chefs de l'État au Conseil constitutionnel, l'inscription dans la Constitution de l'impératif de lutte contre le changement climatique ou encore la spécificité de la Corse. Tout ça, c'est acté. Mais ce qui fait débat, en fait, c'est ce qui concerne le Parlement, accélération de la procédure législative, réduction du nombre d'amendements, contrôle de l'ordre du jour du Parlement par le gouvernement, diminution de nombre de parlementaires et limitation du nombre de mandats. Autant de mesures dénoncées, notamment par la droite, comme une réduction du pouvoir des députés et sénateurs. Et ça, eh bien, ça fâche tout rouge comme un poivron. Le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau.
Bien sûr que ça n'est pas la 5e République, c'est plutôt la 4e République avec une dose de proportionnelle. C'est incroyable. On a fait déjà 24 révisions constitutionnelles. Pratiquement toutes ont voulu rééquilibrer les pouvoirs d'un Parlement qui est terriblement affaibli sous la 5e République. Et là, on voit bien que ça risque de sceller une pratique personnelle et autoritaire du pouvoir vis-à-vis de M. Macron. Le fait, par exemple, de contraindre le droit d'amendement, le fait que le gouvernement, l'exécutif, reprenne la main sur l'ordre du jour, c'est incroyable. Comme si le président de la République n'avait pas suffisamment de pouvoir. Il faut concentrer encore plus de pouvoir entre ses mains.
Bruno Retailleau, ce matin, sur France 2. Audrey Gouta, vous avez l'impression, justement, que ça conforte Emmanuel Macron, ça conforterait, pardon, Emmanuel Macron dans une puissance absolue?
En tout cas, il fait tout pour que ça passe. Et moi, j'ai retenu un mot que j'ai bien aimé, j'aime bien ce mot, c'est le saucissonnage.
Oui, il y a saucissonnage.
Il y a saucissonnage des textes.
Exactement,
donc voilà.
C'est ça.
Et j'ai trouvé intéressant, effectivement, de noter que là était présenté ce qu'il y avait de moins conflictuel, et c'est le reste,
c'est
ce qui crée le bazar, va être présenté beaucoup plus tard, et donc notamment la réduction du nombre de parlementaires.
Et le nombre d'amendements aussi, voilà, c'est ça, voilà. Ce chose-là.
Et donc tout ça va être mis en représentation perlée, on peut dire, ouais. Il y a les grèves perlées, il y a la présentation perlée, et du coup, je pense qu'effectivement, c'est une stratégie qui est assez payante, parce qu'une fois de plus, il prend le temps, ça, et du coup, ça se dilue, et puis ça lasse, et puis voilà, bon. Retailleau, on le reverra un petit peu, mais si c'est pour répéter toujours la même chose, ça fonctionnera plus.
Mais vous verrez quand même que ça travaille les ministres, cette histoire d'opposition ou pas, grâce à un son qu'on va écouter dans un instant de Nicole Belloubet. L'info à 20h50, Léo Téchier.
Et vous en parlez depuis quelques minutes. L'info à retenir ce soir, c'est que les syndicats de la SNCF s'inspirent de ce qui s'est fait à Air France. Une consultation sera organisée la semaine prochaine auprès des cheminots pour savoir s'ils soutiennent ou non la réforme. À Air France, le référendum interne sur les salaires avait lui abouti sur la démission du PDG. Le président iranien Hassan Rouhani a dit aujourd'hui à Emmanuel Macron qu'il fera tout pour rester dans l'accord nucléaire. Les deux hommes se sont parlé au téléphone 24 heures après le retrait des États-Unis. L'Arabie
saoudite a de son côté déjà prévenu qu'elle voudra elle aussi se procurer l'arme nucléaire si l'Iran reprend ses recherches. Le parquet de Strasbourg ouvre une enquête pour non-assistance à personne en péril après la mort en décembre dernier d'une jeune femme moquée par le SAMU et pas prise au sérieux. L'opératrice téléphonique en cause est suspendue à titre conservatoire. La ministre de la Santé demande, elle, une enquête de l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Transférer un impôt national ou départemental aux communes, cela pourrait être une solution pour compenser la perte de 26 milliards d'euros avec la disparition de la taxe d'habitation. Il n'y aura en tout cas aucun nouvel impôt créé, promet le Premier ministre Édouard Philippe. La suppression de la taxe d'habitation est par ailleurs prévue au plus tard pour 2021. Un Italien vainqueur de la 5e étape du Giro, le Tour d'Italie, aujourd'hui, Enrico Bataglini l'emporte au sprint à Santa Ninfa en Sicile. L'Australien Rohan Dennis reste en rose.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Aujourd'hui, au Conseil des ministres, il y avait au menu réforme de la Constitution. Un plat bien copieux, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Alors, vous le savez, Emmanuel Macron, en ce moment, il a du mal à la boucler, hein, cette réforme de la Constitution. Le Sénat n'en veut pas. Et surtout, la première interrogation de l'opposition, c'est ça va réduire eh bien, notre pouvoir à nous, opposition. Bien sûr que non, dit le gouvernement. Mais en fait, vous allez l'entendre, c'est dans toutes les têtes. Regardez, écoutez, Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, qui expliquait cette réforme, est un peu perturbée par l'opposition.
Le gouvernement devrait pouvoir mener plus rapidement les réformes qu'il juge prioritaires dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux, et ce, sauf opposition des conférences des présidents des deux assemblées. C'est la possibilité de travailler sur l'ordre du jour.
Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un petit lapsus voilà, devant des journalistes. Mike Lounès, pour vous, ça limite vraiment. Est-ce que c'est important de la faire aussi rapidement, cette réforme de la Constitution?
Je crois que au-delà du détail des mesures, ce qui est important, c'est la logique politique. Et moi, ce que je constate, c'est que nous sommes dans un pays où il y a 50% d'abstention aux deux principales élections qui sont la présidentielle et les législatives. Il y a quelques années, on se foutait de la gueule des Américains parce qu'ils étaient à ce niveau-là et nous, on se gossait d'être à 75 ou 80% de participation. On descend à ce niveau-là, on ne se pose pas de questions et on va renforcer le pouvoir des institutions à diriger sans la société, voire contre la société.
Pour vous, ça ne peut pas aider les 15% de proportionnel, meilleure représentation, attendez, non, ça peut pas
moi,
aider.
Pour moi, le vrai problème, ce n'est pas de faire une réforme institutionnelle, c'est de faire une révolution démocratique. Je pense que ce pays, je ne parle pas que des législatives, je pense aux départementales, aux municipales, aux régions, est en train de mourir de la logique majoritaire. Moi, je suis minoritaire dans mon parti là-dessus. Ouais. Je suis pour sortir du scrutin majoritaire. Je suis pour un système, comme dans toutes les démocraties modernes, à la proportionnelle, régulée, encadrée, avec des seuils, pour que la vie démocratique respire dans ce pays. Ce qui est fait là va à l'inverse. On ne fait pas respirer la vie démocratique. On l'étouffe et c'est extrêmement grave. Ouais. Extrêmement grave.
Mathieu Alterman.
Bon, je pense que tout n'est pas négatif. Non, voilà, on va pas. Voilà, on
non,
peut trancher.
Non, mais
est-ce que pour vous, juste Mathieu Alterman, une chose tout de même concernant, on va dire, les mesures concrètes pour les Français, oui. Pour bien comprendre, c'est en fait la proportionnelle. C'est-à-dire qu'elle est fixée à 15%. Emmanuel Macron en avait parlé lors de son discours au Congrès pour une meilleure représentativité. Mais 15%, ce que disent l'opposition, et notamment même ses alliés du Modem, ils disent, François Bayrou dit, mais c'est n'importe 15%, c'est pas
ça. Ça sert à rien. Oui, mais parce que vous savez bien le danger. S'il y a trop de proportionnelle plus élevée, il peut y avoir des partis populistes à l'Assemblée de manière très très
j'aurais juste qu'on entende Mathieu Alterman.
Voilà, c'est tout. Si on se retrouve avec à l'Assemblée énormément de gens du Front National et des gens du, enfin c'est
et
tout le danger depuis des
années.
Alors oui, mais bon, mais
c'est enfin, la réalité
moi la chose qui m'intéresse
pays.
Le plus
et
dedans,
alors,
dedans
comment
c'est
peut-on avoir peur de la démocratie avec les gens du Front National,
avec les gens qui sont pas hyper démocratiques.
Non, attendez, en attendant les institutions le sont. C'est juste tous les noms que vous avez cités, Bayrou, tout ça, qui trouvent qu'il n'y a pas assez de proportionnel. Pour moi, ils sont dans le petit calcul politicien. La question, la question qui est posée est celle de la logique du système. Est-ce qu'on est pour rester dans une logique majoritaire qui réduit les différences et réduit le débat, ou est-ce qu'on est pour passer à une logique proportionnelle qui pourrait aussi avoir... Nous, on reste sur le traumatisme de la 4e République, comme si la France de 2018 était encore la France des années 50.
Je voudrais qu'on fasse un petit tour.
Au niveau des calculs,
ça,
oui.
C'est déjà ça la première chose, logique Lounès. Politique.
Et Éric Métou, pour vous, s'il y a urgence de faire justement cette réforme, de supprimer le nombre de parlementaires, de passer de 577 à 404, au Sénat, dit déjà qu'il y a des super régions, si on enlève en plus des parlementaires, est-ce qu'il n'y a pas un risque de couper justement le pouvoir législatif et les citoyens?
Il y a y a urgence à faire une réforme institutionnelle, mais de fond, oui. Qui pourrait être effectivement une proportionnelle réelle. Après, on peut discuter
des modalités,
d'accord, chose. Pas d'accord, etc. De supprimer le millefeuille administratif. On sait qu'il y a entre les régions et les départements, il y a un étage de trop. Il y a trop de parlementaires. Moi, je suis pas certain parce qu'en même temps, les gens veulent pas payer pour les parlementaires, mais enfin, en même temps, quand on leur enlève chez eux, oui. ils disent qu'il faut pas qu'ils partent. Enfin, mais il faudrait avoir une réflexion apaisée là-dessus. C'est surtout ça, oui. c'est-à-dire une discussion, un débat. Ça doit prendre du temps. C'est aussi pour ça qu'il faut le faire maintenant, parce que sinon, on le fera jamais. Après, le problème, c'est que politiquement, on est dans un système où ça ne passera jamais. Et on le voit très bien. Là c'est de la réformette qui passe. Non, alors, le Sénat est contre.
Juste, oui. Alors, j'explique juste. Voilà. Alors, en fait, ça, c'est des lois avec le Congrès, c'est les lois voilà. les plus consensuelles. Sauf la Corse, en fait. La Corse, il fait qu'on, voilà, ça fait pas consensus. Mais sinon, les autres, c'est loi organique,
donc,
c'est, voilà.
De fait, ça passera pas. Et la seule solution pour Macron, quand il va se retrouver face à un blocage pour le coup institutionnel, ça va être de demander un référendum. Et on sait qu'en France, et pas seulement en France, les Français ne répondent pas à la question qu'on leur pose. Ils votent pour ou contre celui qui la pose. Et on va se retrouver avec le même problème qu'on a depuis des années avec une vraie réforme constitutionnelle. On ne peut pas la faire dans ce pays.
Mathieu Gérin, si vous pouvez faire très court, s'il vous plaît.
Il a dit exactement référendum. 69, De Gaulle veut supprimer le Sénat. Les gens, finalement, votent contre De Gaulle. Et depuis 69, on s'est jamais dit, est-ce qu'il ne faut pas finalement supprimer le Sénat, ce qui est quand même un vrai...
C'est une question sur laquelle nous allons laisser. Voilà, les auditeurs, hein, ce soir, voilà, réfléchissez à ça, on revient demain, et c'est sûr qu'on ramasse les copies. Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer, restez encore un instant, Malik Lounès, parce que j'allais vous remercier, voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Malik Lounès. Voilà, au revoir. Merci, Audrey Goutard, également. Voilà, il arrive de ces choses étonnantes, sur un plateau. Merci, Mathieu Alterman. Éric Métou, la Une de l'Express, cette semaine.
Trop doux. La Une de l'Express, c'est l'histoire de deux gamines qui ont été agressées sexuellement dans un lycée et qui se sont révoltées contre ces agressions. Et deux adolescentes très courageuses.
Très courageuses, en tout cas, à retrouver donc dans l'Express.